c'est une nouvelle vitesse, j'ai jamais touché. En sorte que j'avais mon bassin, il voulait plus s'incliner vers l'avant, donc ça allait me mettre en cycle arrière. Donc le cycle arrière, ça s'appelle que nos jambes ne seront plus. Non, faut comment je peux expliquer ça correctement sans
c'est
me
pas évident, hein?
Ouais. Montrer parce qu'on me voit pas là. Mais par exemple, on a notre jambe au sol, puis on veut étirer notre quadriceps là. Ben notre jambe gauche est au sol, notre quadriceps, on veut tirer notre quadriceps droit, ben, nos deux genoux sont vis-à-vis. Mais quand on court puis qu'on est en cycle arrière, ça fait en sorte que le quadriceps droit va se retrouver plus en arrière. Donc, c'est comme si on les tirait un petit peu plus, puis là, nos genoux sont plus rendus égaux, ce qui fait en sorte que, on vient se ralentir. Parce que, idéalement, c'est d'avoir nos genoux tout le temps égaux pendant qu'on court, ou même si on pouvait avoir le genou qui est un petit peu plus en avant, ce qui fait en sorte que, ça veut dire qu'on court encore plus vite. Donc, c'est ça que je suis en train de me battre un peu contre moi-même à la fin de la course pour pas perdre cette position-là puis de continuer à avoir ce champ, cette mes genoux égaux à ce moment-là. C'est pour ça que je suis comme, est-ce que je l'aurais battu? C'est une bonne question. J'ai l'impression que oui, j'arrivais vite, mais j'étais vraiment en train de dire, OK, faut que je garde ma position. La course à 100 000, c'est quasiment la fin. OK, t'es capable. OK, c'est fini. Donc là,
écoute, une seconde, faut pas qu'il y ait trop d'affaires qui te passent par la tête parce que c'est vite passé.
Exactement.
Oh boy. Mais Audrey, bravo. On pouvait pas passer à côté de ça, comme tout le monde là, qui s'intéresse. On te découvre, dans le fond, le Québec, le Canada te découvre et le monde de l'athlétisme international te connaissait déjà. Mais là, je pense qu'ils vont te regarder d'un œil un peu différent. Merci beaucoup pour cette belle entrevue. C'était très rafraîchissant de t'entendre. Bonne chance pour tes prochaines compétitions. Puis au plaisir de te reparler d'ici les championnats canadiens à Montréal. Puis même de t'accueillir en studio, pourquoi pas?
Mais merci beaucoup. Ça va être un grand plaisir de venir vous voir, de vous reparler à nouveau.
Mais merci, Audrey. Bonne chance pour la suite. Au revoir.
Merci.
Bye-bye. Audrey Leduc, donc la nouvelle reine de vitesse sur 100 mètres au Canada, c'est quelque chose. On revient dans un instant. Jean-Philippe Blaude, dépisteur des prédateurs de Nashville. Martin McGuire sera là également dans les prochaines minutes. Mathieu Olivier des Blue Jackets et André Tourigny, notamment Stéphane White. On aura Patricia Anne Beaulieu un petit peu plus tard, Stéphane Leroux, Alex Agostino. Tout un menu.
Bonjour, ici Jean-Claude Gélina. Je vous invite à ne pas manquer en semaine sur CFIX FM 93. Rimouski, les petites vites.
Le centre de sport JMD Passion Hockey fête ses 10 ans à l'été 2024. C'est avec un tout nouveau complexe qui comprend deux surfaces, terrasses et services qu'on vous invite à vous inscrire pour la saison d'été dès maintenant. 5 classes masculines, 3 classes mixtes et 2 classes féminines. Cette saison comprend 16 matchs plus séries. Pour la classe Open, Deck Espoir de 5 à 12 ans et la Ligue M16, les inscriptions débutent le 25 mars. Rejoins-nous pour une expérience palpitante. CSJMDDeckRimouski.com.
Le centre de location Locaflex, une entreprise familiale d'ici, vous propose une gamme complète d'outils et d'équipements. Vous cherchez l'outil idéal pour vos travaux de paysagement, de rénovation ou de construction? Pensez local, pensez Locaflex. Nous avons un large éventail d'équipements, remorques, excavatrices, nacelles, génératrices, ventilation et bien plus encore. Une solution efficace, économique et écologique. Locaflex, 194 avenue Léonidas, Rimouski, 88-722-1212.
Le samedi 25 mai dès 19h30, soirée de boxe construction Jolimont à l'Amphithéâtre Desjardins de Mont-Joli. 14 combats de haut niveau, sanctionnés par la Fédération québécoise de boxe olympique, mettant en vedette des boxeurs du Québec, de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick. Billets en vente à partir de $25 sur ticketaccess.net ou sur le site de l'Académie de boxe BSL. Un événement présenté par l'Académie de boxe BSL de Rimouski, en collaboration avec la Corporation des événements spéciaux de la ville de Mont-Joli et le Quality Inn de Mont-Joli.
Notre résidence n'est pas seulement un endroit où vivre, c'est une véritable résidence de cœur. Profitez de notre grande salle de séjour pour lire un livre ou discuter entre amis avec une vue imprenable sur le fleuve. Tous nos services sont inclus dans un seul prix compétitif. Plus besoin de vous soucier des frais supplémentaires. Avec une réputation alimentaire impeccable et un personnel qualifié et humain, nous mettons tout en œuvre pour que vous vous sentiez chez vous. Prévoyez une visite maintenant. Les résidences de l'Immaculée de Rimouski, au cœur du centre-ville, 581-246-3515.
Ne manquez pas la toute nouvelle chronique de Sébastien Desjardins de H. Grégoire Rimouski. Démystifions la vente de véhicules usagés et tout ce qui l'entoure. Il a de bons conseils pour vous. Soyez au rendez-vous tous les vendredis à 9h15. Une présentation de H. Grégoire Rimouski.
Ici, c'est CFIX FM 93.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Na, 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 na. ici Mario Langlois.
Accueillons maintenant le dépisteur des prédateurs de Nashville à la veille de s'envoler pour la Finlande pour le championnat mondial des moins de 18 ans, Jean-Philippe Glaude, que ses amis appellent JP. Salut Jean-Philippe.
Salut Mario.
Jean-Philippe, dis-moi, est-ce que c'est une cuvée excitante que la cuvée 2024 en prévision du prochain repêchage?
C'est toujours, pour les recruteurs, Mario, c'est toujours une cuvée excitante.
Oui.
Mais c'est notre... Non, mais sans blague, tu sais, on est souvent influencé, je dirais, par les premiers joueurs qu'on entend, les premiers choix pour se dire si on est excité ou pas. C'est souvent le réflexe, je te dirais, des gens. Tu sais, l'année passée, on parlait beaucoup de Connor Bedard, donc automatiquement, tout le monde est excité. Cette année, le consensus va autour de Macklin Celebrini, mais... Écoute, c'est une. Si on parle de peut-être des 10, 15, 20 premiers choix, tu sais, je veux dire, c'est une cuvée que va avoir d'excellents défenseurs. Des défenseurs offensifs, des défenseurs two-way. À travers ça, peut-être pas autant en termes de joueurs élites, là, si on peut dire, peut-être pas autant de Suédois ou Finlandais qu'on voit. Tu sais, il y a des années qu'on voit beaucoup de ces joueurs de ces pays-là. Peut-être moins cette année. Beaucoup de joueurs, je dirais, des joueurs canadiens, des joueurs américains. Mais tu sais, l'objectif justement de s'envoler demain voir le championnat, c'est vraiment d'aller les comparer. Comparer les différents prospects. Puis après ça, ben chaque organisation a ses joueurs peut-être plus tard dans le repêchage qu'on aime. Puis c'est ça qui est le fun, parce que souvent après après la deuxième ronde, souvent ça part un petit peu dans tous les sens, parce qu'à un moment donné, ben on a tous nos objectifs puis le genre de joueurs qu'on aime. Puis ben c'est ça qui rend toujours le repêchage intéressant.
Fais-tu ta liste, puis tu la mesures aux autres dépisteurs de ton organisation, puis vous frottez vos listes les unes contre les autres pour dégager un consensus, Jean-Philippe?
Ben écoute, c'est selon les territoires, hein, tu sais, je veux dire, chaque recruteur chez nous a un territoire, tu sais, pour ma part, ben tu sais, évidemment, j'ai la GMQ, mais depuis quelques années, je vais beaucoup, sinon autant qu'en Ontario, donc la OHL, je fais un petit peu de tournois à travers la saison. Donc, quand après ça, on va se rasseoir avec nos collègues, là, pour nous, ça va être quelque part au mois de mai, là, on va aller faire nos meetings à Nashville pour un petit peu finaliser notre liste. Ben oui, on va comparer, mais en même temps, mon recruteur-chef, lui, a vraiment la liste globale. Tu sais, lui a vraiment la vision. Tu sais, je suis allé dans l'Ouest pendant 10 jours, mais tu sais, j'ai peut-être pas autant de détails sur les gars qu'on repêchait en 3e, 4e ronde de l'Ouest.
Par contre, est-ce que c'est ton patron qui veut que vous changiez de territoire de temps en temps pour avoir un autre regard sur le même talent, puis que vous en jasiez ensemble en connaissance de cause?
Ben, encore là, je te dirais pas nécessairement. Ça, c'est des missions... peut-être des fois, tu sais, ton patron, puis encore là, ça va varier d'une organisation à l'autre. Tu sais, j'ai des collègues au Québec qui restent vraiment au Québec. Je parle de collègues, là, je parle de dépisteurs de d'autres organisations. Là. Mais tu sais, des fois, tu as des missions, ton head scout, là, recruteur chef, te dirait, hey, JP, j'aimerais ça que tu ailles peut-être dans l'Ouest une semaine pour cibler tel joueur. Puis après ça, moi, ça me permet, ben, quand je reviens me rasseoir, d'avoir une meilleure idée dans nos meetings, les comparer aux joueurs du Québec, aux gars de la OHL, peut-être avec les Suédois. Fait que tu sais, j'ai une meilleure idée, donc ça te permet évidemment assurément de participer un peu plus aux discussions, là, on s'entend, là, parce que tu as vu une grande majorité des joueurs qui seront disponibles. Puis ça, je te dirais, Mario, au début, quand j'ai commencé, j'avais strictement la LHGMQ. Puis à un moment donné, ben, tu arrives au fait d'être collé sur tes joueurs, fait autant positivement que négativement. Tu peux des fois peut-être trop aimer entre guillemets un joueur, puis des fois être trop difficile envers lui. Mais quand tu vois les autres ailleurs dans d'autres ligues, ben finalement ton joueur au Québec ou peu importe, tu réalises quoi, il est peut-être pas super. Tu sais, finalement, écoute, le joueur que mon collègue de l'Ouest me parle, il est bon, mais finalement je l'ai vu, mais il est peut-être pas tant meilleur entre guillemets là, que lui que j'aime au Québec. Donc ça donne un regard super intéressant.
Qu'est-ce que tu penses du talent qui sera disponible au prochain repêchage sur le territoire de la LHJMQ, ton principal territoire?
Ben, tu sais, je vais t'avouer sincèrement que c'est une année qui va être très difficile. Là. On se fera pas de cachette. Je pense qu'à quelques semaines avant le repêchage, c'est sûr que le discours va revenir. Là. C'est pas une cuvée où est-ce que y a beaucoup de profondeur. Puis, tu sais, ça c'est souvent le cercle vicieux. Hein. T'as pas beaucoup de joueurs en termes entre guillemets élite. Ben ça crée que ton recruteur chef va peut-être moins venir. Donc s'il vient moins, ben il y a peut-être des joueurs qui seraient repêchés plus tard que peut-être que lui voit pas. Donc tu as peut-être plus de la misère des fois à les pousser. Bon tu sais, mais écoute, c'est pas une super année. Convaincu que déjà l'an prochain, parce qu'on a déjà un œil à savoir qui s'en vient, ça va déjà être mieux l'an prochain. Mais écoute, c'est des cycles. Il n'y a pas nécessairement des raisons uniques. Là. C'est comme ça, puis on vit avec.
Justin Poirier a fait beaucoup jaser cette année. On sait qu'à cause de son gabarit, il est vraiment sous le radar. C'est pas le premier à vivre ça. Caulfield a chuté à mi-chemin en première ronde à cause de ça, principalement. Mais qu'est-ce qu'il n'y a pas que Caulfield avait? Caulfield a quand même été un choix de première ronde. Poirier, 51 buts. À 17 ans, c'est je sais que c'est pas dans NCAA, là, mais c'est du stock. D'après toi, on pourrait être surpris ou il va sortir tard à cause du gabarit? Qu'est-ce que t'en penses?
Bon, écoute, qu'est-ce que j'en pense? Sans trop m'avancer pour dévoiler nos secrets, mais tu sais...
On est juste nous autres, ça. Il n'y a pas de problème.
Je le sais, Mario. On est comme autour d'une bière en parlant de repêchage, c'est bon. Mais tu sais, je veux dire... ta question est bonne, puis je suis convaincu que les recruteurs comme moi, quand on est avec nos collègues, notre boss, nos head scouts, on a cet exemple-là un peu en tête de dire, tu sais, Caulfield a été repêché en première ronde, c'est un marqueur de but, pas un gros gabarit, entre guillemets, c'est un shooter, là, c'est un gars qui score de partout, puis j'analysais un peu récemment, justement, Justin Poirier, les buts qu'il avait fait, etc., puis tu sais, c'est pas nécessairement d'un endroit, ça, c'est la preuve qu'il peut, tu sais, qu'il shoot le excuse-moi, là, mais il shoot le puck d'un peu partout, puis il est vraiment, écoute, elle sort rapidement de sa palette. Donc, tu sais, le comparable peut se faire. Après ça, il y a des raisons. Est-ce qu'après ça, on essaye de projeter le joueur en termes de son style? Est-ce qu'il peut vraiment jouer un top 6? Après ça, sa vitesse? Après ça, comment il peut aller l'améliorer? Mais tu sais, moi, sans m'avancer, je suis convaincu que ce genre de joueur-là qui tu sais, je veux dire, j'ai tout le temps pensé ce qui est le plus difficile à faire au hockey, c'est de marquer des buts. Tu sais, je veux dire, il y a des joueurs qui sont bons avec la rondelle, faire des passes, des transitions.
Il y a quelque chose de spécial, lui, là.
Ben, c'est ça, exact. Mon point, c'est de dire ça, c'est que quand t'as un talent unique qui est quand même marqué des buts, je suis convaincu qu'une organisation pourrait sauter sur le joueur plus rapidement, peut-être que la centrale peut l'avoir sur son, en termes de rang.
Tu serais peut-être plus à l'aise de parler d'un cas qui est derrière nous, c'est-à-dire qui n'est pas en avant, où je comprends qu'il y a quand même là, la protection du secret professionnel, mais Samuel Girard a été repêché par Nashville. Tu étais dans l'organisation, je ne me trompe pas, Jean-Philippe, quand il a été repêché. As-tu eu ton mot à dire? C'est un petit joueur, lui aussi, Samuel.
Oui, j'ai eu mon mot à dire. C'était mon deuxième repêchage à l'époque avec les Prédateurs, puis à troisième, en fait, repêchage. Puis, oui, effectivement, puis... Samuel joue à Shawinigan. Moi, j'habite à Trois-Rivières, donc tu sais, je l'ai vu à 16 ans, je l'avais vu à 17 ans énormément. Samuel, ben tu sais, c'était des éléments qui faisaient qu'il était spécial. Ultra compétitif, ultra talentueux, instinct offensif, mais non, il était petit, tu sais, c'est pas un gros défenseur, mais il avait beaucoup d'intention en termes de tu sais, on dit défendre, tu sais, il défendait d'une manière vraiment agressive, tu sais, son bâton était actif, il avait une notion de caractère, puis quand les Cataractes s'étaient rendus en finale contre Rouyn-Noranda cette année-là, je me souviens de son le dernier match que moi j'ai eu la chance de le voir avant que la série se termine puis que nous on avait nos meetings par la suite, c'est Samuel, il y avait quelque chose fait comme un but, trois passes, puis un défenseur de 17 ans, mais il avait vraiment, c'était à Shawinigan, je me souviens, je pense que c'était le match numéro 4, il avait dominé le jeu, il était exceptionnel, puis mon recruteur-chef était avec moi lors de ce match-là, fait que c'est certain qu'en sortant de l'aréna, on s'entend, là, on avait quelque chose de super positif en tête sur Sam, mais ce sont tous des éléments, tu sais, caractère compétitif, instinct offensif, puis c'est un gamer, tu sais, il veut la rondelle quand ça compte, fait que je pense que c'était le genre de joueur qu'on aimait, puis que, tu sais, à un moment donné, le talent, c'est le talent, le talent n'a pas nécessairement de grandeur ou de poids rendu là.
As-tu assez vu jouer Lane Hutson pour faire une comparaison? J'ai parlé avec des dirigeants de la Ligue qui me disaient qu'il était en avance sur Samuel au même âge. Pourrais-tu me dire si t'es d'accord avec ça ou tu l'as pas assez vu?
Ben, tu sais, j'ai pas... Lane Hutson, à son année de repêchage, je l'ai vu à deux tournois. Donc, tu sais, c'est difficile de... C'est un comparable devient difficile parce que, tu sais, Samuel, lui, il est allé à Nashville, il a joué un petit peu, il a été échangé au Colorado. Donc, tu sais, quand il arrive au Colorado, il y a une organisation déjà solide. Tu sais, Cal McCarr s'est joint, McKinnon, tu sais, on s'entend, là, t'es entouré de joueurs qui font que peut-être que ton adaptation se fait encore mieux. Le comparable, pour moi, il est difficile à faire, mais... Une chose qui est sûre, qui est un point, quand que plutôt, peu importe le jeune, peu importe l'organisation où est-ce que le jeune joue, c'est pour moi c'est souvent la constance qui fait que un joueur peut se différencier en termes de être capable éventuellement de bien compétitionner, évoluer dans la Ligue nationale de hockey, tu sais, dans le sens que surtout ce genre de joueurs-là, tu sais, des défenseurs où est-ce que physiquement sont peut-être moins gros, moins grands, c'est d'être capable de soir après soir c'est un long calendrier, les voyages, tu sais, c'est l'élément de constance.